Il faut le dire, on est pas sérieux, on est un peu foutu du commencement. Soit qu'on cache ce qu'on est, ou qu'on tourne tout de suite d'un côté folle, qu'on fasse les deux. Une fois en public, l'autre en privé, il y a un complexe d'infériorité énorme. C'est pour ça qu'on porte tant de valeur aux bijoux, et puis à ce qu'on porte, et puis à ce qu'on a l'air, et puis à l'âge qu'on a, je sais pas quoi, qu'on va tous les soirs ramasser quelqu'un qui va nous dire qu'on est beau, qu'on leur plaît. Et c'est vrai, ce qu'ils font tous, le tapette, c'est pour ça que les clubs sont pleins.
De toutes les minorités érotiques, les homosexuels ont longtemps constitué la plus méconnue et sans doute la plus calomniée. De nos jours, l'attitude sociale se modifie, s'assouplit à leur égard, particulièrement au niveau des jeunes générations. Avant d'adopter aucune position en ce qui concerne le présent ou l'avenir de ce phénomène social, il convient de toujours conserver à l'esprit que un Canadien sur 20 au moins est homosexuel et que les plus grands ennemis des homosexuels se recrutent à l'intérieur de leur propre groupe, où nombre d'entre eux font preuve d'une intolérance presque incompréhensible à l'égard de leurs congénères plus efféminés, plus âgés ou simplement plus heureux qu'eux-mêmes. Le docteur Louis Voyer, psychiatre.
Si deux homosexuels, par exemple, se font l'amour dans une chambre couchée et qu'ils sont adultes, ça ne regarde pas Pierre Jean-Jacques, ça les regarde tous les deux. Et si tous les deux donnent leur assentiment de faire cette chose, c'est de leur affaire. Comme deux adultes hétérosexuels, un couple d'hommes et de femmes, même s'ils ne sont pas mariés, on n'ira pas les embarrasser s'ils font ça dans la chambre couchée. S'ils font ça dans le parc public, bien là, c'est autre chose.
Une chambre à coucher, ça peut quand même constituer un flagrant délit d'adultère. Et d'autre part, la société peut avoir à redire à l'homosexualité et au fait qu'il y a des homosexuels et que l'homosexualité se pratique même en lieu clos.
Oui, maintenant, c'est qu'à ce moment-là, la société ne peut rien faire contre l'homosexualité. Tout ce qu'on peut faire contre l'homosexualité, c'est de la prévenir, de prévenir son éclosion. Maintenant, quand un homme homosexuel est homosexuel, la société ne peut faire autre chose que de le reconnaître comme homosexuel et de l'accepter comme homosexuel. Il n'a pas voulu devenir homosexuel. Il est devenu homosexuel à cause d'un trouble de développement dans son enfance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va le rejeter de la société parce qu'il est homosexuel? On va l'empêcher de travailler? On va l'empêcher de s'épanouir? Je ne crois pas. Je crois qu'il doit avoir autant de chances que n'importe qui de s'épanouir. Et si on lui donne sa chance de s'épanouir, il faut qu'il s'épanouisse aussi sur le plan sexuel. Ça n'enlève rien à l'intelligence. Ça n'enlève pas tellement grand-chose à l'affectivité, sauf qu'elle est dirigée dans un autre sens. Elle n'empêche pas l'individu de fonctionner à son niveau, surtout si celui-ci n'est pas rejeté de la société. Et vous en avez dans tous les domaines des homosexuels, vous en avez dans toutes les professions, et vous en avez des gens qui sont très riches sur le plan de la pensée. Et pourquoi les rejeterions-nous? On en connaît dans la littérature, on en connaît chez les hommes politiques, on en connaît des gens qui ont très bien réussi. Malheureusement, il y en a beaucoup parmi eux dont l'activité a été freinée parce qu'ils avaient cette honte. Et la honte vient du fait qu'ils sont rejetés de la société.
Vous pensez en somme que dans les conditions actuelles, la société perd beaucoup plus qu'elle ne gagne avec son ostracisme?
Certainement. La société perd toujours de ne pas reconnaître les gens tels qu'ils sont. Je me refuse à parler de pathologie. La pathologie est vue par ceux qui veulent en voir, qui ont y voir une pathologie chez l'homosexuel. Et de freiner ces individus, là, on fait naître une pathologie, de vouloir les brimer, de refuser des employés. On n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de s'exprimer, de s'exprimer selon sa personnalité à lui. L'homosexuel, c'est un homosexuel. Il a sa personnalité, et dans sa personnalité est comprise l'homosexualité. Et nous allons empêcher son expression, mais c'est de la destruction. On n'a pas le droit de détruire. C'est de la moralité que de ne pas détruire. Parce que je pense, que moi, j'ai toujours pensé que le péché, c'était ce qui était destructeur. Le bien n'est pas destructeur. Le mal est destructeur. Si l'homosexuel, parce qu'il est homosexuel, on l'empêche de s'exprimer, nous sommes destructeurs en face de lui. Nous voulons qu'il s'exprime autrement. Et ce n'est pas à nous à choisir comment les individus vont s'exprimer. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le choix, comme lui n'a pas le choix de s'exprimer autrement. Alors nous allons quoi? Le mettre en prison, le reléguer de la société? Est-ce que nous avons le droit d'emprisonner des gens qui, parce qu'ils pensent autrement que nous? Écoutez, on est tous homosexuels parce qu'on est capable de se donner la main entre mâles. Hein? C'est qu'on est capable d'un rapport homosexuel. Il n'est pas sexuel dans le sens de génital, mais il est sexuel sur le plan des sexes.
Quelqu'un te demande une aide. T'es plus pressé à lui aider qu'une autre personne.
Oui, parce que tu es dégagé de certaines obligations.
C'est ça. Alors, je pense que le bonheur, c'est de rendre les autres heureux tout en l'étant soi-même.
Justement.
Je pense que pour être bien servi, je veux dire, très bien servi. Il n'y a pas comme un homosexuel pour bien servir le peuple.
Il y a beaucoup de fables qui circulent sur les homosexuels.
Docteur Manouvrier.
Le fait que les homosexuels se travestissent tous. Ce n'est pas vrai. Il y en a un grand nombre que l'on ne peut pas reconnaître des autres et qui circulent dans les rues et qui sont des gens absolument épanouis.
Je préfère être tel que je suis que de changer... pour être imité la femme.
Il faut distinguer aussi l'homosexuel qui s'accepte de l'homosexuel qui ne s'accepte pas. L'homosexuel qui s'accepte, il est capable de réaliser les autres facultés de son existence et de réussir dans la vie au même titre qu'un hétérosexuel. Le fait qu'un homosexuel ne réussisse pas réside beaucoup plus dans le fait qu'il ne s'accepte pas et qu'à ce moment-là, il devient un homosexuel névrotique, quoi, au même titre qu'un hétérosexuel qui a un complexe d'infériorité ou une névrose d'échec qui ne réussira pas dans la vie. Mais une chose qu'il faut retenir de ça, c'est que l'homosexuel, en dehors de sa polarité génitale, reste un être humain comme les autres et digne, disons, et capable de fécondité, de créativité comme n'importe qui. Il y a aussi l'idée qui circule que les homosexuels sont des gens qui sont soit toujours dans le rôle de l'homme ou toujours le rôle de la femme. En réalité, la majorité intervertissent les rôles. Ils sont soit le rôle masculin, soit le rôle féminin.
J'avoue, chez moi, je suis très vers cette file. Je pourrais être attiré vers un homme de 40 ans qui est bien physiquement parce que il y a un côté physique chez les hommes de 40 ans que j'aime bien. Alors, un homme de 40 ans, un bel homme. Mais je pourrais être aussi bien attiré vers un jeune gars, un adolescent, un peu un amour grec, quoi, vers un gars de 15 ans, 16 ans. Mais je pourrais être attiré vers un gars de mon âge, vers un gars de 20 ans, parce que il me ressemblera ou il ne me ressemblera pas.
Vous voyez que la plupart des gens ne connaissent rien des homosexuels. Ils pensent également qu'un homosexuel a toujours tendance à pervertir un petit. Mais il y a la même proportion, disons, de délinquants homosexuels qu'il y en a de délinquants hétérosexuels. Et celui qui pervertit le pédophile, donc qui pervertit un jeune, est du même type que l'hétérosexuel qui pervertira une petite fille.
Je ne vois pas de dépravation morale chez l'homosexuel. Je connais beaucoup d'homosexuels qui sont très moraux et beaucoup plus moraux que plusieurs hétérosexuels. Plusieurs disent que ceux qui sont durs contre les homosexuels, justement, rejettent leur propre tendance homosexuelle. Ça reste à prouver peut-être, mais il y a des fois qu'on distingue ça assez bien.
Je pense qu'au temps du Christ,
le père Albert Lévesque,
on était beaucoup moins traumatisé qu'on ne l'est à l'heure actuelle par les problèmes sexuels. Le Christ est situé dans la tradition juive qui, à l'égard de la sexualité, est beaucoup plus saine que la tradition de la civilisation occidentale. Et je ne dis pas la civilisation chrétienne. Je ne crois pas qu'elle, à ce sujet de la sexualité, la tradition soit chrétienne. Elle est de civilisation occidentale. Et à ce moment-là, je crois, et ceci est une opinion personnelle, je crois que dans un tel contexte, le problème de l'homosexualité était beaucoup moins fréquent qu'à l'heure actuelle.
Tu ne penses pas que c'est peut-être dans notre monde, dans le monde de l'Ouest, qu'on demande cette question? On n'entend jamais la question sortir de la Grèce, il me semble. Où l'homosexualité n'est pas l'homosexualité qu'elle est ici. Parce que même ici, il y a des Grecs qui font l'amour comme ça avec des garçons. Mais ils sont toujours mariés avec trois enfants. J'étais à un mariage grec, je n'y croyais pas parce que le garçon qui venait de se marier avec une fille a dansé avec moi, non pas avec elle. Elle a passé son temps dans la cuisine avec les autres femmes.
Oui, mais là, les danses se pratiquent entre hommes, mais ça n'a aucun sens.
Mais non, c'était pas des danses grecques. Et je veux dire, c'est quelqu'un avec qui j'allais au lit régulièrement, avant et après le mariage. Mais on le savait tous, je veux dire, sa femme le savait, et ses copains le savaient, tout le monde le savait. J'étais invité comme ça au mariage, je suis un peu comme sa maîtresse. Mais une maîtresse reconnue.
Sociologiquement, l'expression contre nature n'aurait aucun sens, elle n'est d'ailleurs jamais utilisée par un sociologue.
Monsieur Jacques Daphny.
Moi, je voulais vous dire que l'idée que je me fais de l'évolution, justement, du normal et du pathologique là-dedans, c'est que... Vous enregistrez ?
Oui.
Bon, vous le ferez pas. Bon. C'est ceci. Tant que l'activité sexuelle a été liée, et pour des raisons, je crois, profondément démographiques, à la procréation, et ceci parce que on vivait dans des sociétés anciennes où la peste, les épidémies, les guerres, etc., décimaient des populations, il y avait un problème de survie. Pour cette raison historique, je crois, on a lié profondément, à l'aide d'une théologie et d'une morale, l'idée que activité sexuelle et création étaient étroitement liées. Et que donc tout ce qui déviait de cette simple corrélation devenait délictuel et, pour une période, si vous voulez, de haute moralité, devenait péché. Dans une autre étape, on a commencé à reconnaître que la fin de l'activité sexuelle était encore la création, mais aussi était l'assouvissement d'un certain désir, l'accomplissement d'un certain bonheur. Et donc, on a commencé à introduire quelque chose à côté de ce lien direct sexualité-création. Dans une troisième étape, et ça nous situe dans la seconde moitié du XIXe siècle, les psychiatres qui connaissaient un essor considérable à l'époque ont commencé à s'intéresser à ce problème et à faire remarquer que l'activité sexuelle avait des relations directes avec l'équilibre physiologique et mental d'un individu. Et donc, au fur et à mesure, on a avancé. On a détaché de plus en plus l'idée de activité sexuelle, création, natalité, si vous voulez, et on a dégagé de plus en plus la notion, au fond, de bonheur, d'équilibre, de santé mentale. Je pense que il est bien évident que tant qu'on liait étroitement, comme on le faisait autrefois, natalité et création, l'homosexualité, c'était vraiment la déviation la plus criminelle à l'égard des fins de la société. Au fur et à mesure où la société évolue, au fur et à mesure où ce n'est plus un problème de carence démographique, mais que c'est au contraire un problème de surplus démographique, c'est évident que ce lien-là, il saute. Et il saute aussi biologiquement, puisque tout simplement, l'homme arrive à contrôler purement et simplement ses taux de natalité, et que donc, cette fois-ci, on est arrivé à une séparation, au moins conceptuelle, de deux fonctions de la sexualité, l'une qui reste la procréation, et l'autre qui est le bonheur des individus. À ce moment-là, que des individus trouvent ce bonheur sexuel dans des formes qui leur conviennent, ceci devient de moins en moins anormal au sens de la société. C'est-à-dire que pour la société, il lui paraît de moins en moins hors de la norme que l'individu trouve ses satisfactions, son équilibre dans une forme d'activité sexuelle qui lui convient et qui a des raisons étiologiques très diverses que les psychiatres, les psychologues, les médecins connaissent bien. Je pense autrement dit qu'on en arrive à un point, si vous voulez, où le débat est un, démoralisé, et deux, où on admet que de plus en plus un individu trouve son équilibre de la façon qui lui convient.
Je suis assez orgueilleux, quoique je me balance de tout. Je me balance des opinions de la voisine d'à côté, de qui que ce soit. Je me balance de tout. Je m'en fais pas. Pour aucune raison. Le premier emploi que je suis arrivé à Montréal, il y a maintenant 15 ans, le patron lui-même avait su au début que j'étais homosexuel. Maintenant, à chaque soir, quand j'entrais au restaurant, que le restaurant soit plein de monde ou pas, le seul mot, comme disait « bonsoir lady », avec mon nom en plus, c'était accepté de tout le monde. On me dit, tu es une tapette, n'importe quoi. Bon, c'est peut-être par jalousie que vous parlez. Ou c'est peut-être aussi par curiosité. Parce que les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent sont toujours contre le sujet.
Il faut souhaiter, tout homme civilisé doit souhaiter,
Docteur que Denis Zabo.
Donc, le degré de tolérance remplace l'esprit inquisitorial et de persécution qui a prévalu pendant des siècles.
Et n'avez-vous pas l'impression qu'une plus grande tolérance va entraîner un élargissement du phénomène social?
Il y a ce danger-là, et j'ai l'impression que si j'étais homosexuel, eh bien, je me préoccuperais beaucoup de cet aspect-là, et au fur et à mesure que je sentirais que l'aspect de répression légale, par exemple, est levé ou est atténué sur l'homosexualité, j'essaierai d'imposer une sorte de police interne extrêmement efficace et puissante au sein du milieu, pas, donc pour éviter toute espèce de provocation ou qui pourrait apparaître comme telle par la majorité, c'est pas, qu'il faut bien dire, et demeurera toujours donc hétérosexuel. Par conséquent, je crois que cette tolérance, cet équilibre demeurera toujours précaire. Et la minorité devrait toujours réaliser qu'elle est minoritaire. Enfin, regardez un peu, mettons, le fait français en Amérique du Nord, hein, vous avez beau de proclamer n'importe quoi, ben, vous demeurez minoritaire, et si vous ne prenez pas garde, hein, donc on peut vous pénaliser drôlement.
En somme, d'après vous, les homosexuels constituent une minorité presque ethnique, enfin en tout cas comparable aux juifs, aux noirs.
Mais oui. Et mettons, cette ethnicité est d'autant plus, entre guillemets, pas, est d'autant plus prononcée que la pression sur eux est grande, que le rejet est radical, dans la mesure où cette pression s'atténue, où le rejet devient plus mitigé, pas, eh bien, la spécificité du groupe va s'atténuer, hein, mais seulement, donc je voudrais mettre là en garde, hein, donc en disant qu'il faut qu'on évolue avec infiniment d'adresse et de délicatesse dans ce domaine-là, parce que le moindre faux pas, hein, peut provoquer des pogroms, puisque nous sommes dans le domaine de comparaison ethnique, des pogroms ou un renforcement de la réaction sociale, y compris légale.
Dans les cas d'homosexualité qu'on...
Maître Roland Blais.
C'est des cas que nous retrouvons ici à Montréal, par exemple. Ce sont des cas d'homosexualité qu'on retrouve dans des chambres de toilettes, aussi drôle ça peut se dire, de certains théâtres, de certaines tavernes, ou encore de certains hôtels. Et à ce moment-là, et vous seriez surpris de la qualité des professions des personnes impliquées. Et souvent, j'ai eu à défendre des gens très bien, mariés, bien souvent, heureux en ménage, père de famille, mais qui quand même trouvent un dérivatif. Je dois vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de ces causes-là qui se plaident. Parce que, premièrement, à cause des publicités, et même si un juge demandait un huis clos, il est évident qu'il y a toujours des gens ou des journalistes qui vont pouvoir trouver ou avoir accès à ces dossiers. Alors, dans la majorité des cas, ce qui arrive, c'est que nos clients nous demandent de les faire plaider coupables
le tout avec la moins publicité possible.
Coupable. Cela peut signifier des années de détention. Dans le milieu artificiel du pénitencier, la première question qui vient alors est celle que nous avons posée au docteur Richard Michaud, psychiatre.
Combien il y a d'individus de 30 ans qui pratiquent l'homosexualité en prison? Mais peut-être la plupart. Maintenant, encore là, vous avez affaire à des gens dont la principale caractéristique est l'immaturité émotionnelle. Et l'on sait fort bien que au cours de la période de maturation, il est tout à fait normal de passer par une phase où l'individu présente des besoins sexuels assez indifférenciés et qui peuvent avoir tendance à se satisfaire dans des relations homosexuelles, ce qui rentre dans l'évolution normale de l'individu. J'ai pu observer au cours de ma pratique que les comportements et connaître des individus qui vivaient en prison ou dans des institutions depuis plusieurs années. Des gens qui avaient été mis là pour délits sexuels ou autres, mais pas nécessairement pour délits sexuels. Chez la plupart de ces individus-là, on constate que l'homosexualité a une fonction sociale, c'est-à-dire qu'elle fait partie intégrante et essentielle du comportement social des individus. Elle tient une grande place dans leur relation avec les autres, et je parle toujours d'individus en milieu fermé. Et ces interrelations avec les autres sont presque toujours intimement liées à leur relation sexuelle. Ces interrelations-là avec les autres s'établissent suivant différents schèmes. Par exemple, il y a la relation du chef ou du caïd avec ses fidèles. Il y a la relation du pervers obsédé par la sexualité et qui fait un peu figure de paria quand même dans le milieu par rapport aux autres, parce que pour lui, la sexualité devient une fin et le reste, ses comportements deviennent subordonnés à son activité sexuelle. Ce qui le fait plutôt mettre à part par le groupe et le fait considérer comme un minus abens. Maintenant, il y a aussi ceux qui ont besoin de dépendre des autres. Et ceux-là, ce sont les satellites des chefs et des caïds. Et ce sont souvent des prostituées à l'extérieur et à l'intérieur. Ils deviennent les vassaux ou les valets des leaders.
Car il existe dans toutes les grandes villes du monde des centaines de garçons qui se livrent à la prostitution homosexuelle. Dans le document qui va suivre, nous atteignons sans doute au plus bas niveau de la détresse humaine. La détresse qui ne se soupçonne même pas. La détresse joyeuse.
Bon, il y a combien de temps que tu marches comme ça avec des garçons?
2 ans.
2 ans?
Oui.
T'as quel âge?
7.
Comment t'appelles tes clients?
Des clients.
Des clients. Comment tu les trouves?
Il y a des restaurants.
Dans les restaurants? Que... Comment ça se passe? Tu nous racontes ça?
Ben, quand on est dans un restaurant, dans une taverne, on paye une bière, puis bon, en gros, ça roule, ils nous envoient un clin d'œil, puis on les suit.
Tu les suis dans un hôtel, chez eux?
Un tourist home.
Oui. Tu as des endroits spéciaux à toi?
Oui.
Combien tu charges?
Ça dépend.
Ça dépend en quoi?
Ça dépend des exigences. Aussi. Ah bon.
Et alors, disons, pour des toutes petites exigences.
5 dollars.
5 dollars. Et pour des grandes exigences.
Attends, 10.
10. Combien tu gagnes à peu près en une semaine?
Mettons 30, 35. Ça dépend des semaines.
Ça dépend des semaines. Je sais pas, tu pourrais gagner davantage d'argent dans un autre métier.
Ça sent bien.
Pourquoi t'es paresseux? Tu trouves que c'est de l'argent facile? C'est pas si facile.
Je vois pas, mais Cham travaille pas. Fait que moi, travailler, des fois, il va travailler. Fait que ça me porte à pas travailler.
Bon. Je pensais que tu devais gagner plus que ça.
Ça dépend des semaines. Des semaines, j'ai rapporté 70. Ça dépend. Je tiens pas des places bien riches. Que...
Où est-ce que tu te tiens?
Ça ramène.
Tu ramènes. Oui, mais je veux dire, tu te tiens pas dans des tavernes ou dans des clubs?
Non.
Pourquoi? C'est pas bon, là? Ça marche pas?
C'est pas bon. Le doigt, ça m'intéresse pas même.
Et comment ça se passe? C'est toi qui... Tu fais ton prix à l'avance ou c'est le client qui...
Je demande vraiment qu'il paye. Puis je demande qu'il demande. Puis si ça va pas en affaire, je dis. Je sais pas comment, il s'en est envoyé là.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Non, il n'y a pas mal, il va. Des fois, je m'en dis, puis ils sont là, vite.
Mais est-ce que tu as des clients réguliers ou est-ce que tu en changes souvent?
On dit que client régulier, ça dure quoi, 3-4 semaines? Ça. Stand.
Puis tu dois avoir des clients vicieux ou des sadiques ou des masochistes, oui. Non? Oui.
Par exemple. J'ai reçu chez un gars. Son fils, c'est un gars bien en cuivre. Puis son fils, c'était se faire donner des volets.
Ouais. Des volets comment? Avec des chaînes?
On les a découpés dans la face, du carreau.
Qui ça? T'étais avec d'autres?
Des fois, on les a tout seuls, des fois, avec d'autres.
Simplement des coups de pied? Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'ils saignent?
Ouais. Ben non, jusqu'à. Éjaculation.
Ah bon? Et t'en as beaucoup des comme ça?
Des deux.
T'en as deux comme ça? Et tu les vois régulièrement?
Ben, j'en joue les voix, je vois les voix.
Et l'autre, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose? Faut lui donner des coups de pied dans la face?
Surtout les coups de ceinture
sur les
fesses.
Les coups de ceinture sur les fesses. Ils ont quel âge, ces gens-là?
Le premier, il a 35-40 ans. Puis le deuxième, il a 27 ans.
Il y a de multiples causes admises à l'heure actuelle, beaucoup semblent rejeter, disons, la responsabilité sur la mère. Je pense qu'il faut nuancer cette expression en disant, suivant l'optique actuelle, qu'il a dû exister dans la dynamique relationnelle entre le père et la mère des défauts qui ont provoqué, si vous voulez, dans les communications mère et père-enfant, une distorsion des messages.
Ce que je regrette surtout dans mon existence, c'est que je n'ai pas eu un père à laquelle j'ai pu m'identifier. Et je n'ai pourtant pas gardé de fixation maternelle non plus. Mais pour moi, mon père était l'homme que chez nous, on détestait. Et mes frères et sœurs ont exactement ce même sentiment vis-à-vis de notre père.
Et maintenant, quel est votre sentiment vis-à-vis de votre père? Il a évolué tout de même. Enfin, vous ne le détestez plus.
Non, je ne le déteste pas d'une certaine façon, mais je ne le manque pas. Mon père disparaîtrait aujourd'hui pour demain. Ça ne me ferait probablement absolument rien.
Est-ce qu'il sait que vous êtes homosexuel?
Non.
Qu'est-ce que ça donnerait s'il l'apprenait?
Probablement que, vu ses conceptions de moralité et d'honneur familial, il serait probablement prêt à commettre un crime pour m'éliminer.
J'ai un père qui est lointain, qui n'est pas... Je ne me rappelle pas que mon père m'ait baisé. Jamais. Peut-être c'est ça. Je ne sais pas.
Il ne vous a pas permis de vous identifier à lui?
Du tout. Du tout, jamais. Il était gentil comme ça, mais c'était presque un monsieur. Pas papa.
Ma mère portait des culottes pas mal.
Ah bon?
C'est-à-dire, mon père travaillait fort, enfin, ma mère portait culotte, menait pas mal, d'ailleurs. Ouais.
Mais ton père s'occupait
pas autant de vous autres que...
Oh, il s'occupait de nous, mais c'est ma mère qui venait pas mal tout de même.
Il faut remonter vers la première enfance, où il y a des phases qui sont extrêmement importantes pour la détermination de la génitalité, c'est-à-dire de la polarité génitale. Et c'est notamment lorsque l'enfant prend conscience de son individualité dans la phase qu'on appelle négative. Si on ne lui a pas laissé la chance de se considérer comme personne, il est évident qu'à ce moment-là, s'il est un objet possédé dans la famille, il ne pourra pas établir de lien de personne à personne avec un autre être. Et c'est déjà une des raisons, si vous voulez, de fausser la dynamique relationnelle de l'être humain.
J'ai déjà fait une thérapie psychiatrique dans laquelle on m'a dit que... C'est-à-dire que j'ai refusé toute affection à partir de l'âge de 2 ans.
On a trouvé la raison de ce refus?
Oui, c'est un événement dans ma vie. C'est le premier événement que je me rappelle, d'ailleurs. C'est que j'ai eu plusieurs gifles de ma mère à l'âge de 2 ans, lors le soir de l'anniversaire de mon frère. J'étais ce qu'on appelle en bon canadien, j'étais tannant. Alors, ma mère était probablement énervée parce qu'il y avait beaucoup de visites à la maison et elle m'a giflé parce que j'ai fait une chose insignifiante, ce qu'un enfant de 2 ans peut faire.
Évidemment, il est clair que c'est la phase cruciale pour l'intégration de la sexualité. Et je dis sexualité et non pas génitalité, parce que cette génitalité-là ne revêt dans l'enfance qu'une forme, qu'une des parties de la génitalité, c'est-à-dire l'érotisation ou tout le processus d'érotisation de l'être humain. On ne peut pas parler de génitalité totale vu que les glandes ne fonctionnent pas encore.
Je me rappelle, par exemple, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je prenais parfois, à l'insu de ma mère, des robes de mes sœurs. Et une fois, je me rappelle, ma mère m'avait surpris. Au lieu de me punir, me battre, elle m'a dit, Mathieu, dis, fais pas ça. Elle était très douce, très, très, très contente au fond intérieurement de ce que j'avais fait.
Est-ce que vous pensez qu'avec des parents extraordinairement lucides qui auraient fait tout ce qu'il fallait, vous auriez réintégré la normale?
Probablement.
Et ce n'est qu'à l'adolescence, lorsqu'un enfant, au cours de toutes ses phases d'intégration de sa personne, de phase oedipienne, aura intégré ses comportements sexuels, c'est-à-dire le pourcentage masculin ou féminin de ses comportements sexuels, que pourra venir se greffer la phase génitale qui est la mise en place du système génital de type hormonal avec évidemment répercussions psychologiques. Et il ne faut pas croire, comme certains l'imaginent, que durant les phases de l'adolescence où l'enfant passe de l'autosexualité à l'hétérosexualité, en passant par une phase d'homosexualité, c'est là qu'il devient homosexuel, absolument pas. Lorsqu'il se fixe à la phase homosexuelle, c'est parce qu'il a les constituants psychologiques pour le faire.
J'ai 17 ans.
Et ça fait combien de temps que vous êtes découvert homosexuel?
Oh, depuis l'âge de 14 ans, je pense.
Comment ça s'est passé? Un beau matin, vous en êtes aperçu?
Ou... Non, c'est venu pas mal graduellement. Je me suis aperçu que j'étais pas comme les autres, quoi. Puis...
Pas intéressé dans les filles?
Justement, puis je voyais que je me sentais à part de mes copains d'école, quoi, ça.
Quand est-ce que vous avez eu votre première expérience homosexuelle?
Alors, il y a un an. J'avais 16 ans.
Et croyez-vous qu'il y ait des constituants biologiques?
À l'heure actuelle, au stade actuel des recherches, pardon, il semble que on ne puisse pas infirmer des composantes biologiques, ni hormonales non plus d'ailleurs, parce que des expériences l'ont prouvé. Il y aurait des facteurs héréditaires de type prédisposant ou favorisant, beaucoup plus que des facteurs héréditaires acquis comme être génétiquement un homosexuel. Il ne semble pas que ce soit vrai.
J'ai fait du travesti au théâtre et dans les théâtres, et j'ai fait du travesti chez moi. Je vivais en femme à la journée longue.
Ah, vous viviez en femme?
Le soir, je fais le magasinage et tout, en femme. Je demeurais avec un amant à ce temps-là. J'ai demeuré 5 ans avec un amant. Alors, pour moi, il était mon mari, moi j'étais sa femme.
Et personne ne soupçonnait
que j'étais un homme. même les locataires, aussi, nous avions un appartement, alors la propriétaire des locataires ont toujours cru que j'étais sa femme. Même sa famille aussi croyait que j'étais sa maîtresse.
Est-ce que le nombre des homosexuels croît, décroît ou est stagnant à votre...
Non, il me semble que le nombre d'homosexuels soit le même. Ce qui serait peut-être en accroissement, c'est d'abord la prise de conscience d'un certain nombre d'homosexuels qui n'en auraient pas pris conscience, ou non pas l'audace non plus, mais enfin le fait que les homosexuels peuvent s'affirmer un peu plus qu'ils ne le pouvaient auparavant parce que la société devient moins rigoureuse.
Cependant, si le sujet éprouve tout de même des difficultés d'adaptation, mais qu'il possède des moyens financiers et de la patience, il peut toujours avoir recours à un psychiatre. Il reste alors à lui souhaiter de rencontrer un praticien aussi intègre que le docteur Voyer.
Je peux dire que si j'avais envisagé, et même s'il m'est arrivé de vouloir envisager un traitement sur le plan de l'aiguillage sexuel, j'ai toujours manqué mon coup. Mais puisqu'on envisage à ce moment-là que d'aider l'individu à se reconnaître tel qu'il est et à jouer son jeu avec ça, alors à ce moment-là, on peut accomplir beaucoup. Maintenant, si vous avez un jeune homme qui vous arrive à l'âge de 12, 13, 14 ans et qu'il est imprécis dans son orientation sur le plan sexuel, à ce moment-là, on peut l'aider parce qu'à 13 ans, le développement n'est pas terminé, même s'il a un bon bout de chemin de fait. Et encore possibilité d'identification secondaire.
11 ans. Oh, j'étais avec des amis d'école, puis on a décidé d'aller en bas de la ville ramasser des hommes. On n'avait pas fait l'amour ensemble, mais je pense qu'on savait tous les trois qu'on était comme ça. Alors on a décidé un jour d'aller à la gare centrale, parce qu'on prenait le petit train là.
Oui.
Et puis on est ramassé des hommes. Moi j'ai ramassé un homme. J'étais seul d'ailleurs, c'est tout. Après ça, c'était Oui, le week-end d'après, on est retourné. Puis là, j'ai ramassé un autre. Avec qui j'étais pour 2 ans, pendant que j'étais à l'école.
Oui.
À Plattsburgh. Il venait me rencontrer le week-end. Il venait m'enlacer. Puis on passait le week-end ensemble. Alors là, j'avais 13 ans, un peu plus. J'étais au tropical.
Monsieur Coudary, principal d'école. Si c'était votre fils.
Je commencerai par me demander d'abord ce qui... en moi à clocher pour que mon enfant en ait été réduit à cela, en soit arrivé à cela. Je crois que s'il avait dit, raconté sa première escapade à ses parents, peut-être il aurait pu savoir pourquoi, ou peut-être ses parents ont reçu pourquoi il était devenu comme ça. Mais s'il n'y avait pas de dialogue entre lui et ses parents, probablement c'est parce que il voulait trouver un père quelque part, parce que le sien ne remplissait pas adéquatement son rôle, peut-être. J'ai une théorie qui m'est très chère, monsieur. Un professeur, un ingénieur, un médecin, ça prend des années pour le former. Combien de temps faut-il pour faire un père de famille? Même pas l'espace d'une nuit, l'espace d'un coït. Et vous croyez que n'importe qui, sans préparation aucune, parce qu'il a simplement la possibilité de copuler peut immédiatement devenir père de famille et entrer dans cette vocation qui consiste à prendre en charge, plutôt la responsabilité, pendant des années durant, de faire d'un être, d'une larve, d'en faire un adulte équilibré, sans aucune préparation lui-même. Combien y a-t-il de gens qui savent, par exemple, que la véritable personnalité de l'enfant se forme entre 0 et 3 ans. Que les 3/5 de la personnalité de l'enfant se font déjà à cet âge où l'on a tendance à ne voir dans le bébé qu'une bouche qui crie et qu'un ventre qui évacue. Et sans plus. Et moi, je suis d'avis que si, dans les écoles, on commençait à enseigner à la génération présente, au même titre obligatoire, la sexualité à partir de la 7e année et quand tout le cours du secondaire qu'on enseigne la psychologie de l'enfant, la psychologie de l'adolescent, qu'on fasse un cours de la famille, eh bien dans 2 ou 3 générations on n'aura peut-être plus besoin de psychiatre, car à ce moment-là seuls ceux qui sont capables d'entreprendre, d'élever une famille, le feront consciemment, avec, en sachant tout ce qui les attend. Et qu'ils seront armés et adaptés au même titre que pour devenir ingénieur, il faut un tel diplôme, et pour être père, et on n'en a pas besoin. Il n'y aurait presque plus de problème à ce moment-là.
Il existe toutefois des approches différentes. Celle de M. Claude Trudel, psychologue.
La première observation, sûrement la plus générale, mais peut-être la plus pénétrante aussi dans mon sens, c'est de voir l'homosexualité comme un symptôme. Et je dirais que c'est un symptôme de l'angoisse de vivre. Et peut-être qu'en particulier dans notre monde actuel, nous vivons tous dans une espèce de pression. L'individu est pressé par sa vie de rendement, de travail, sa vie sociale, etc. Je dirais que c'est le problème de l'individu aux prises avec son image devant la réalité. Doit-il s'insérer véritablement, prendre le risque de se compromettre dans une réalité comme un individu qui doit mener un combat seul?
Quel genre de vie est-ce que vous avez l'intention de mener plus tard?
Une vie où il y aurait de... Je pourrais rencontrer des gens, où il y aurait de... N'importe quelle vie, une vie remplie, de toute façon.
Vous avez peur de ne pas remplir votre vie?
Non, bien...
Pas assez remplir votre vie, ou de ne pas avoir l'occasion de mener une vie remplie, plutôt. Vous avez déjà été amoureux?
Oui. Mmh. Justement, ça remplit une vie. C'est une des manières d'être heureux.
Assez souvent, dans certains cas, et c'est les cas avec lesquels j'ai le moins bien travaillé, ce sont des gens qui sont très culpabilisés et qui, d'une certaine façon, ont presque besoin que quelqu'un les culpabilise davantage. Et vous savez qu'un prêtre, dans ces circonstances-là, c'est tout désigné. Alors, service de culpabilité à domicile. Alors, à ce moment-là, on vient voir un prêtre. Et si le prêtre est accueillant plus à la personne qu'au problème, à ce moment-là, ces gens-là sont très déçus. Parce qu'au fond, ils se retrouvent un petit peu devant eux-mêmes. Et devant les responsabilités qu'eux-mêmes peut-être pourraient prendre, ils le sentent. Et à ce moment-là, ils sont très déçus et ordinairement, ils ne reviennent pas dès qu'ils perçoivent que tout n'est pas dans des catégories, qu'il n'y a pas de théorie derrière l'homosexualité, que c'est une personne qui est accueillie, que rien ne sera catalogué, que tout est encore possible, que si la personne est intéressée, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, qu'elle pourrait atteindre un plus grand épanouissement. Si elle le perçoit, à ce moment-là, elle ne reviendra pas.
Les opinions sont extrêmement controversées sur l'efficacité des traitements. Les uns disent qu'on arrive à de très très bons résultats, d'autres que c'est impossible, que le manque de motivation rend tout traitement... Le manque de motivation profonde, des individus rend tout traitement aléatoire. Quelle est votre expérience personnelle là?
Disons que c'est très difficile de se prononcer catégoriquement sur l'efficacité des traitements psychologiques des homosexuels. Cependant, je crois, moi, qu'il faut espérer réellement que les traitements seront de plus en plus adéquats. Et je dirais que les résultats seront de plus en plus encourageants aussi. Une des choses qui me paraissent... Disons, très, très importante dans le moment, c'est un peu la perception que la société se fait de l'homosexuel. Il se percevait lui-même comme un être à part, isolé. Et si on accepte qu'il soit parmi nous, avec nous, qu'il apporte sa contribution dans la société, dans le moment avec son problème, je crois qu'il se sentira quand même plus supporté par les autres et plus apte, plus à même, disons, de sortir de son angoisse.
Quand il était jeune, on a découvert qu'il s'occupait pas beaucoup des filles. Puis là, on a pensé qu'il y avait une tendance à l'homosexualité. Et à présent, on s'est fait la résolution que sa vie, c'était normal pour lui.
Est-ce que les voisins savent que votre fils est comme ça?
Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je crois que ça ne regarde pas les gens, ça regarde sa vie à lui. Parce que moi, je ne vois pas l'inconvénient à ce qu'une mère ne peut pas aimer son enfant, qu'il soit comme il l'entend. Parce que rendu à l'âge qu'il est là, j'aime mieux qu'il continue tel qu'il est, qu'un jour qu'il rencontre une femme, se marie, qu'il ne soit pas heureux.
Madame Voisard Desormeaux, travailleuse sociale.
Ce qui arrive, c'est que dans certains cas, la personne homosexuelle croit qu'en se mariant, elle se guérira de ce besoin de son propre sexe.
Docteur Lise Fortier.
En tant que médecin qui avait particulièrement affaire à des couples, est-ce que vous avez eu des cas de femmes prises avec un mari homosexuel?
Oh, c'est très fréquent.
C'est très fréquent.
C'est très fréquent. Et malheureusement, je pense que ça le deviendra moins à l'avenir parce que les jeunes ne sont plus renseignés sur ce qui est normal et ce qui n'est pas normal au point de vue comportement. Mais la chose la plus fréquente qui arrive, c'est la jeune femme qui vient se plaindre. Peut-être parfois son mari est impuissant, mais parfois il n'est pas impuissant, mais enfin elle a découvert qu'il s'intéressait à d'autres hommes et qu'il la délaissait plus ou moins. Et quand on remonte dans l'histoire de ce mariage, et ça m'amuse toujours, ça m'amuse et c'est tragique tout à la fois de demander à la jeune femme, mais enfin, avant votre mariage, comment ça se passe? Est-il entre lui et vous? Est-ce qu'il vous embrassait? Est-ce qu'il vous faisait d'avance? Oh, il me respectait beaucoup. Ça, c'est quasiment immanquable, cette réponse-là. Alors, attention aux hommes qui vous respectent trop.
Très répugnant. C'est très répugnant, c'est l'expression que les femmes emploient dans des cas semblables. Elles se sentent absolument stupéfiées, elles sont stupéfiées de voir que leur mari a une activité homosexuelle et de fait, elles demandent presque automatiquement une annulation de mariage ou bien une séparation en attendant.
Et beaucoup de gens se marient. Pas beaucoup, mais enfin un certain nombre, se marient étant homosexuel inconscient, en fait, étant homosexuel latent. Et ce sont les hasards de la vie qui vont peut-être leur faire découvrir cette homosexualité. Soit que le super-ego s'infléchisse un peu et devienne moins rigide et leur permette de tenter des expériences, ou alors des accidents de la vie conjugale qui leur font rencontrer leur homosexualité.
De toute façon, ce n'est pas une chose à conseiller, je suppose, le mariage pour un homosexuel.
Ben, tout dépend évidemment du degré d'oblativité de l'épouse, du degré de connaissance qu'elle a du problème et de son désir dans une certaine mesure et de sa capacité aussi de pouvoir aider l'homosexuel.
Je pensais te faire une vie normale avec lui, alors avant le mariage, je me suis marié. Tout à coup, j'étais en voyage de noces au bout de la quatrième journée. Puis un matin, je m'aperçois, je me rends compte qu'il partait avec sa valise, mais je dis « Où t'en vas-tu? » Et il dit, moi, c'est bien malheureux, mais une femme, ça ne m'intéresse pas. Ça me prend un homme. Moi, j'ai resté bien hébété. Naturellement, je ne connaissais pas beaucoup ce genre de vie. Je me demandais à quoi il voulait en venir. C'est là qu'il m'a raconté qu'un homme, il plaisait plus qu'une femme, que ce n'était pas la même sensation, et qu'il pensait qu'en mariant, ça l'aurait guéri. Mais de toute façon, ça ne l'a pas guéri parce qu'il n'était pas comme ça aujourd'hui. Alors, j'avais 19 ans. Je n'ai jamais pu l'accepter. Si j'avais l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aurais peut-être passé par-dessus. Mais mes parents étaient très sévères et puis on m'a dit de laisser aller à ces folies. Ouais. C'est vrai qu'en 1937, c'était pas comme aujourd'hui. C'est plus évolué, mais dans mon temps, moi, nos parents nous gardaient les yeux fermés sur ces choses. Alors, c'était très difficile. C'est pour ça que j'ai eu tant de misère à l'accepter, parce que j'étais ignorante de la chose. Parce que si j'avais été, comme je vous le disais, l'expérience que j'ai acquise maintenant, je lui aurais pardonné. J'aurais probablement fait quelque chose en sorte qu'il reste de la même façon ou que je me serais habitué à son genre de vie.
Le destin de l'homosexuel semble bien être de s'accepter. Est-ce que cela veut dire suivre la routine, prendre des risques, aller dans les bars spécialisés?
La clientèle qu'on a ici, on a à peu près toutes les classes de la société qui viennent ici, et ça se mélange bien. Dans un bar ordinaire, Vous avez une clientèle UP, vous avez une clientèle ouvrière, etc., et qui ne se mélange pas. Tandis qu'ici, bien, vous avez autant d'ouvriers, de collègues blancs, de fonctionnaires, de toutes professions qui se comprennent très bien, nécessairement, parce qu'ils ont le même problème, et il n'y a pas de problème de classe. Naturellement, il y a peut-être toujours un problème de tenue, et, mais là, ça n'a rien à voir avec
l'individu. Non, mais il semble que les gens qu'on voit autour de nous, en ce moment, soient des gens qui se tiennent très bien. Mais et vis-à-vis des autorités constituées, est-ce que vous avez des gros problèmes, enfin?
C'est-à-dire que je n'ai pas de problème jusqu'à présent. Je n'ai simplement que peur d'en avoir. Les bars homosexuels sont des cibles faciles. Et c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles il n'y en a pas tellement. Un bar qui a visite de la police trop souvent, nécessairement, est délaissé après quelques semaines. J'espère ne pas avoir à connaître ces périodes d'harassement, mais ça a déjà existé et je sais qu'ils, lorsqu'ils se prennent à un bar et qu'ils n'aiment pas l'endroit, ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir leur donner la difficulté et un jour le faire fermer, quoi. Et peut-être pas avec toujours la vérité, les méthodes loyales et régulières.
Il y a provocation, souvent.
Il y a provocation. On envoie même des jeunes, des mineurs dans les bars pour ensuite aller faire un tour. Certains qui en avaient des jeunes, parce que c'est eux qui les envoient. Seulement, ça se fait pas régulièrement, mais ça se fait.
D'autres essaient de s'organiser.
Alors, donc, vous avez fondé cette association internationale pour l'égalité sexuelle, c'est ça?
Oui, justement. Alors, c'est une association anonyme. Nous avons les homosexuels chez les femmes et chez les hommes. Là, l'association a pour but de donner des lectures, des causeries éducatives pour pouvoir adapter l'homosexuel vis-à-vis la société. Je tiens beaucoup à cœur parce que ça reflète un peu qu'est-ce que moi j'ai souffert. Et alors, je veux aider les autres qui vont se faire comme moi. On veut être ensemble, on veut pouvoir s'entraider un et l'autre et voir que même, malgré que nous sommes différents, que nous sommes unis ensemble, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes souffrances qu'on a eues, parce qu'ils sont presque tous identiques.
Vous m'avez raconté un cas qui m'a paru assez bouleversant d'un jeune homme que sa famille a pratiquement fait enfermer comme en fait au Moyen-Âge. On pensait que ces choses n'existaient plus.
Oui, justement, ses parents vivent dans une société assez à l'aise. On a enlevé l'enfant du milieu social où les parents vivent et on l'a placé dans une institution mentale. On l'a mis là comme dépression nerveuse, mais à temps qu'on l'aille loin des yeux. Lorsqu'on a de l'argent, on peut le faire. Et il y a encore des docteurs sans pudeur qui font ce travail sale-là.
Comment l'avez-vous su?
Il m'a écrit lui-même. Et qui m'a dit dans la situation qu'il était. J'ai appelé les parents ne voulaient n'entendre rien parler. On a dit qu'ils ne voulaient pas avoir d'homosexuels dans leur famille, et puis bon, puis que les voisins, puis que leur relation sociale était touchée par la féminité de leur fils, et enfin, ils ne pouvaient pas l'accepter là. On a préféré le placer très loin de la vue.
Il est dans une maison de pour malades mentaux.
Mais oui, justement, dans une maison pour malades mentaux.
Quel âge a-t-il?
Oh, il a 17 ans.
Et il est là depuis combien de temps?
Il est là depuis 5 mois.
Pour encore un nombre de mois?
Oui, on ne sait jamais. Ils peuvent le mettre là pour des années, enfin. On ne sait pas. Jusqu'à mettre un an, peut-être.
À l'issue de ce tour d'horizon, nous avons pensé que pour certains, les astres donneraient la réponse à la dernière et la première question. Y a-t-il fatalité? Madame Irsig.
Non, je ne dirais pas qu'il y a fatalité, mais la prédisposition existe indiscutablement dès la naissance, car on ne voit pas de thème astrologique d'homosexuel sans qu'il y ait une dissonance Vénus-Uranus ou Vénus-Neptune. Et dans les cas où l'homosexualité est, pour ainsi dire, irrécupérable, il y a les deux dissonances coexistantes. Donc, au point de vue astrologique, indiscutablement, l'homosexualité est une anomalie. Mais elle s'ajoute toujours à une qualité de sensibilité extrêmement particulière. En effet, l'homosexuel va être doué d'un désir et d'un besoin de tendresse et de sensibilité profonde plus considérable que chez un individu normal.
Maintenant, il semble que dans l'époque actuelle, les homosexuels prennent une certaine assurance, enfin une certaine conscience de leur nombre, presque de leur force. Est-ce que ça correspond à une évolution générale de l'humanité, de la sensibilité, des rapports sociaux, ou est-ce que c'est un avatar momentané?
Non, je crois que cela est dû surtout à la grande conjonction Uranus-Pluton que nous venons d'avoir et qui a fait faire un bond prodigieux à toutes sortes de pensées, de philosophies et de sciences en même temps. Et on a accepté dès lors l'homme sous un angle nouveau, indiscutablement, et avec plus de liberté qu'il n'en a jamais eu auparavant.